Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Regards Croisés avec Arlette Farah et...
Et Fulgence Blain.
Bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Aujourd'hui encore une belle émission.
Oui.
Donc en ce qui me concerne, en deuxième demi-heure, nous allons avoir Simon Paquin qui est président et fondateur d'EcoMarie pour le nouveau projet La Maison Océanique.
Oui.
Et toi, tu vas nous parler de l'organisme MU ?
Oui, c'est pas moi qui vais parler de l'organisme MU. Notre invité va nous parler de l'organisme MU. Voilà, on parle de Muraille, bien sûr. Elisabeth Andoy, qui est cofondatrice et directrice générale artistique de l'organisme MU.
Ça va être une belle émission, restez avec nous.
Ouais, alors on va en musique.
On va en musique.
Chez Clara, on fume, on boit, on parle de ce qui rend heureux. Explose les bombes de joie, décembre qui est joyeux. Chez Clara, on aime bien regarder les gens dans la rue. Les amis qui arrivent au loin, leur souhaiter la bienvenue. Mais dans les yeux de Clara, qu'est-ce qu'on devine, qu'est-ce qu'on y voit? Est-elle heureuse, on ne sait pas. Ça, on ne le sait pas. Son cœur semble partagé entre un amour démesuré et la peur de s'être trompé, la peur de s'être trompé. Chez Clara, on peut danser le cancan, le jerk ou le twist. On se fout d'être démodé, personne n'y résiste. Chez Clara, les gens sont beaux, semblent arriver d'une autre époque. Tignasse, longue cuir et talons hauts, la jeunesse est baroque. Mais dans les yeux de Clara, qu'est-ce qu'on devine, qu'est-ce qu'on y voit? Est-elle heureuse, on ne le sait pas, ça. On ne le sait pas, son cœur semble partagé entre un amour démesuré et la peur de s'être trompé, la peur de s'être trompé. Même si la musique résonne, Clara commence à penser à quand il n'y aura plus personne, une fois la fête terminée. Elle voudrait tant qu'il soit là, danser avec les amis. Elle pourrait dormir dans ses bras, il ferait moins froid dans son lit. Mais dans les yeux de Clara, qu'est-ce qu'on devine, qu'est-ce qu'on y voit? Est-elle heureuse, on ne le sait pas, ça. On ne le sait pas, son cœur semble partagé entre un amour démesuré et la peur de s'être trompé, la peur de s'être trompé.
On vient d'entendre Pierre Lapointe qui nous chantait chez Clara.
Oui, là tout de suite on va aller à la rencontre, ou bien on va recevoir ici en studio, mais à travers le téléphone, notre invité qui est déjà au bout du fil, Elisabeth Andoy, qui est, je vous le dis tout de suite, elle est la cofondatrice, directrice générale et artistique de l'organisme MU. Vous allez vous demander c'est quoi le MU. Le MU, c'est un organisme qui est à l'origine de magnifiques murailles qui donnent un cachet poétique et réjouissant aux différents quartiers de Montréal.
Bonjour madame.
Bonjour Elisabeth Andoy.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci, vous-même?
Et on va très bien ici en studio, en votre compagnie bien sûr. Et merci malgré votre pas du temps d'être là avec nous pour au moins une vingtaine de minutes. Et vous avez reçu le 25 novembre dernier déjà l'insigne de chevalière de l'Ordre de Montréal. C'est la haute distinction honorifique montréalaise. Alors, en 2019, déjà, il y avait le Grand Prix du Conseil des Arts de Montréal qui a été remis à votre organisme. et puis pour sa contribution artistique, donc, hein, sans nommer tous les autres prix. Hein. Félicitations à vous pour ces honneurs bien mérités. Qu'est-ce que ça représente pour vous, tout ça, avant d'aller un peu dans le vif du sujet?
Ben, nous, on est vraiment un projet montréalais, donc on réalise des murales comme une histoire d'amour envers notre ville. Alors, c'est sûr que ces reconnaissances-là, ben, elles nous donnent beaucoup de fierté. Celle du Conseil des arts, elle est importante pour nous parce que c'est la reconnaissance des pairs, donc du milieu artistique.
Oui.
Et les murales ont longtemps été un peu snobés par le milieu des arts plus académiques. Donc, c'est sûr que pour nous, ça nous procurait une immense fierté d'être reconnus par nos pairs.
Oui.
Et puis, ben, l'Ordre de Montréal, c'est sûr que c'est une reconnaissance importante, prestigieuse, et elle me rend fière parce que ben, ce qu'on fait, comme je vous disais en début d'entrevue, c'est pour Montréal. Donc, c'est une reconnaissance qui est un peu comme une histoire d'amour qui m'est retournée.
Ben, bravo, encore une fois. Bravo.
Merci.
Et puis, d'où vient cette idée géniale là, de faire de Montréal un véritable musée à ciel ouvert?
Mais en fait, l'inspiration vient de la ville de Philadelphie.
Oui.
Donc, mon amie et cofondatrice Emmanuelle Hébert et moi-même, nous travaillions avant pour le Cirque du Soleil et nous étions en tournée aux États-Unis. Et le cirque avait pour habitude de s'associer avec des organismes communautaires locaux qui travaillent avec les jeunes dans la rue et qui font des projets artistiques pour le mieux-être. Et donc, c'est une ville où il y avait beaucoup de murales, un travail extraordinaire avec les jeunes clientèles vulnérables. Et puis, ben, on s'est dit, Montréal mérite un projet comme ça. Ça serait la parfaite ville pour faire ça. Les années ont passé, bien d'autres choses ont été faites, mais l'idée vient de là.
Ah, l'idée vient de là. Donc, on dit merci à Philadelphie, alors, et au Cirque du Soleil.
Oui,
ouais, exactement.
Ouais.
Et donc c'est d'ailleurs le Cirque du Soleil qui a financé la première murale de Mu.
Wow.
Dans le quartier Saint-Michel. Et cette murale est encore magnifique 14 ans plus tard et elle est sur le boulevard Pie-9, coin 47e rue.
Oui. Pie-9, coin 47e rue. Tu aurais une question, Arlette?
Non, on peut visiter. Non, j'étais en train de regarder un petit peu tout ce que vous aviez fait, puis vos artistes. Et puis, je voyais avec plaisir que parmi vos artistes, il y avait Bruno Rouillère, qui a été un de mes chroniqueurs l'année dernière. Je voyais là-dedans. Et puis, il y a plein d'artistes de partout qui sont très... C'est très beau ce qui est fait. Hein.
Oui, c'est
les exemples qu'on voit sur votre site, c'est vraiment très beau.
C'est très beau. Alors...
Merci beaucoup.
Ouais. Depuis la création de Mu en 2007, mais ça fait déjà un bail quand même.
Oui.
Ah oui.
Vous avez,
il y a eu la réalisation. Vous avez initié la réalisation de 150 grandes murailles, toutes aussi impressionnantes les unes que les autres, bien sûr. Et vous avez versé 2 500 000 en honoraires. Là,
Wow. J'ai
dit, d'où vient cet argent? Comment vous, oui, combien de personnes ont participé? Et puis, comment vous amassez de l'argent pour les artistes? Comment ça se passe?
C'est qui vous aide?
Ben, c'est une bonne question. C'est toujours le nerf de la guerre, évidemment.
Oui.
Donc, nous, on est financé à 100% on est en mode gestion de projet.
Oui.
Donc, le seul financement récurrent chez MU, c'est une subvention au fonctionnement du Conseil des arts de Montréal de 22 000 $ par année. Et tout le reste du financement, dollar par dollar, on le trouve un dollar à la fois, un projet à la fois.
Oui.
Alors, c'est immensément d'efforts.
Oui, parce que c'est énorme, la comparaison entre ce que vous avez reçu puis ce qui vous a été donné, c'est un travail de longue haleine.
Oui.
Ouais, et sans aucune garantie, donc sans aucune visibilité et planification des années d'avance. Donc ça, on va bien, mais on reste toujours dans un état de perpétuelle fragilité.
Mmh.
La Ville de Montréal est notre principal bailleur de fonds. D'ailleurs, depuis 2016, il y a un programme d'art mural officiel à Montréal,
ouais,
qui est un programme normé avec le ministère de la Culture du Québec.
Profitez de l'antenne pour le dire merci.
Oui. J'en profite définitivement toujours pour dire merci à Montréal.
Oui.
Et donc, c'est la ville et ses arrondissements qui représentent à peu près 50 % de notre financement annuel de toutes sortes de sources et de programmes différents. Outre le programme d'art mural, la ville est aussi une source de financement par le programme de la politique de l'enfant de la ville.
Oui.
Et toutes sortes de programmes de lutte à la pauvreté et d'action culturelle dans les arrondissements directement.
Oui.
Le reste du financement, c'est des dons, puisque nous sommes un organisme de bienfaisance.
Oui.
Donc, des dons individuels, des dons d'entreprises, des commandites, des échanges de produits et services. Et voilà. C'est un alliage complexe et avec beaucoup de partenaires. Et il y a beaucoup de monde, effectivement, derrière tous ces projets.
Oui, oui.
Alors, après la pause, je vous poserai une autre question, mais que je vais peut-être démarrer tout de suite en vous disant où est-ce que vous avez le droit de le faire un peu partout, ou il y a des endroits spécifiques qui vous sont donnés? On en parlera après la pause qu'on va faire
la réponse,
à l'instant.
On va faire une petite pause
musicale.
Je vous
laisse le temps de penser. Ouais,
et puis on vous revient.
Vous allez me répondre.
À tout à l'heure.
Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours tenant la pose quand les regards l'éclaboussaient. Elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûre que tu ne seras plus jamais seule pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son amour. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire, alors on s'est allongé. Avec ma rose, j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin, la route appelle, alors je lui ai proposé. Si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûre. Tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son amour. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son amour. Et moi je pleure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr. Tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, que ça peut être dur. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure. Je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures. Jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure.
Alors vous venez d'entendre Antoine Ellie qui nous chantait La rose et l'armure.
Alors, Elisabeth Ann Doyle est toujours avec nous. Et
la réponse
pour savoir comment est-ce que les murs sont choisis, vous avez la réponse pour nous là.
Oui, ben les murs, écoutez, Ça fait curieux, on parlait de financement avant la pause, mais oui. Ce n'est pas ce qui est le plus difficile et qui nous demande le plus de travail. Ce sont les murs.
Oui.
C'est la base, évidemment. Oui. Un film avec plein d'argent et plein d'artistes et plein d'idées. Sans un mur, il n'y a pas de mural. Alors, oui. C'est la base.
Oui.
Puis il faut un sacré espace quand même, hein, parce que ce sont des belles peintures murales.
Ouais, donc ça nous demande beaucoup, beaucoup d'efforts. C'est sûr qu'avec les années et le fait qu'il y a plus de murales, les citoyens sont devenus plus sensibles et plus intéressés. Et donc aujourd'hui, il y a plus de propriétaires qui nous appellent et qui nous offrent leurs murs.
Oh,
donc
génial,
je profite aussi de cette fenêtre pour passer le message. Alors c'est facile de nous rejoindre et de nous offrir des beaux murs. Mais chaque arrondissement a sa propre réglementation qui encadre ou non l'art mural. Donc, il y a certains arrondissements avec lesquels c'est plus, il y a plus de contraintes.
D'accord.
Pour mettre de la peinture sur de la maçonnerie, par exemple,
oui.
ou qui encadre les thématiques, ou dont les projets, les propositions artistiques doivent être approuvées au conseil municipal, par exemple. Donc, il y a énormément d'étapes au niveau de la pré-production qui nous amènent à avoir les autorisations et pouvoir procéder avec les murs.
Ouais, OK.
Mais merci de la réponse.
Merci beaucoup. Et puis, on a l'impression que ces murets la poussent aussi comme des champignons. Hein, ils mettent tout à coup en valeur des espaces qu'on ne voit plus. Mais on peut deviner qu'il y a un travail quand même qui précède à tout ça. C'est comme vous venez de l'expliquer. Et quelle est l'étincelle de départ? Quelles sont les étapes, les contraintes? Oui. Le mur est accordé. Comment ça démarre? Comment le choix des artistes se fait?
Il y a beaucoup de questions.
Oui, il y a beaucoup de questions. J'allais dire comme vous. Non, il en pose des questions pendant une seule phrase.
Disons que l'étincelle, on espère toujours que l'étincelle vienne du milieu, vienne vraiment des citoyens, des élus, des groupes communautaires. Donc, on souhaite le plus souvent possible que l'étincelle provienne du milieu.
Okay.
Directement, ou des propriétaires de murs, tout ça, mais émane vraiment des gens.
Oui.
C'est comme ça que les projets sont les plus percutants.
Oui.
Et où il y a une meilleure adhésion et une plus grande fierté après.
Oui.
Sinon, c'est sûr que nous, on cherche toujours des murs, on cherche toujours des opportunités. Donc, des fois, c'est, par exemple, les arrondissements vont faire appel à nous parce qu'il y a un problème, une revitalisation urbaine qui est souhaitée, par exemple, une nouvelle école qui se construit ou des choses comme ça.
Oui.
Sinon, bien évidemment, avec la série des bâtisseurs culturels, et on y viendra, mais... c'est l'occasion chaque année de célébrer des grands artistes. Donc, s'il y a des dates clés, des moments phares qui méritent d'être commémorés ou soulignés, ben ça peut être la bougie d'allumage.
Oui, vous parlez de la série murale sur les grands bâtisseurs?
Oui, c'est exact. Donc, c'est une série qui existe depuis 10 ans. On fête cette année, d'ailleurs, nos 10 ans de cette collection.
Oui.
Donc, c'est une série qui rend hommage à nos grands artistes montréalais.
Oui.
Qui sont soit d'adoption ou de naissance à Montréal, mais qui utilisent aussi Montréal comme une muse dans leur travail et qui ont fait rayonner Montréal sur la scène locale autant que nationale et internationale.
Oui.
Donc, c'est une série où on célèbre des artistes qui représentent toute la diversité de nos champs, de nos disciplines artistiques. Donc, autant la chanson, le théâtre, la danse, les arts vivants,
wow.
La littérature. Et chaque année, on essaie de célébrer quelques artistes, que ceux-ci soient décédés ou vivants.
Oui, décédés. Mais en dehors du grand portrait de Leonard Cohen que tout le monde voit sur la rue Cuisante, quelles sont les autres personnes qui ont aussi été honorées?
Nous avons honoré, par exemple, Dany Laferrière, Janine Souteau,
oui.
Michel Tremblay, Oliver Jones, Oscar Peterson,
oui, hein? Wow.
Daisy Sweeney Peterson.
Que de gros noms.
Clémence Desrochers.
Ouais, bien sûr. Clémence Desrochers, Dominique Michel, Alanis Obomsawin.
La liste est longue.
Cette année,
oui. La liste est longue.
Oui, la liste est longue. Liste cette est année, longue. Nous avons célébré Armand Vaillancourt et la dernière, mais non la moindre, que nous venons tout juste de terminer, c'est un hommage à Lassa Desela,
oui.
qui nous quittait trop oui, jeune, il y a 10 ans déjà.
Que la terre lui soit légère. Et ouais. Merci beaucoup pour cette belle réponse, parce que la liste, je m'attendais à une longue liste comme ça. Bon, ben, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il y a votre organisme qui est doté d'une importante mission sociale auprès des jeunes. Qu'est-ce que c'est?
Ben oui, en fait, MU, depuis le départ, a toujours eu dans son ADN d'amener l'art chez les jeunes et d'utiliser l'art à des fins de persévérance scolaire et découverte des métiers artistiques, en fait. Donc, c'est vraiment utiliser l'art mural pour amener les jeunes à être des citoyens engagés dans leur communauté et aussi rencontrer des artistes, des gens qui œuvrent dans toutes sortes de métiers créatifs, parce qu'évidemment, à Montréal et au Québec, on n'est pas muraliste à temps plein à l'année. Donc, les muralistes ont toutes sortes de métiers créatifs comme être illustrateur, artiste peintre, concepteur de jeux vidéo, architecte et j'en passe. Donc, c'est l'opportunité d'utiliser l'art mural et ses professionnels créatifs pour amener les jeunes à découvrir des parcours académiques et des métiers qui pourrait les inciter, en fait, à rester en classe. Donc, la persévérance scolaire est post-secondaire et elle est dans une approche de professionnalisation.
Merci beaucoup. Arlette, pardon. Là, on est tout juste à la fin de notre... Tu aurais une petite question rapidement?
Mais juste une. Comment... c'est technique, rapide, mais ouais. Je veux dire, quand on fait une murale comme ça, il y a des produits pour mettre dessus, quoi, pour pas que la neige abîme, pour pas que les temps qui passent, que ça continue à rester encore longtemps sur les murs?
Ben, effectivement, votre question est importante parce que le climat ici est extrêmement rigoureux. Donc,
oui.
On n'est pas en Amérique du Sud où l'art mural existe depuis toujours et perdure très, très facilement. Donc ici, avec le climat rigoureux que nous connaissons, ben, il faut, pour aspirer à la pérennité, qui est au cœur de notre démarche aussi, parce que nous avons des pratiques extrêmement responsables et dans une optique pérenne. Donc, il faut vraiment faire beaucoup de travail en amont,
oui.
Beaucoup de préparation pour les surfaces, des petites réparations s'il faut dans les crépis, dans le ciment, dans la brique. Même aux allèges des fenêtres et toi, bref, il y a beaucoup de préparation qui fait que les murs sont sains. Ensuite, les murs sont nettoyés, dégraissés, il y a des couches d'après qui sont mises. Donc, il y a un travail énorme
de fond.
Merci beaucoup, en
merci
tout cas,
beaucoup,
pour vos réponses.
Elisabeth Anne Doyle, cofondatrice, directrice générale et artistique de l'organisme MU. Merci beaucoup de votre temps et puis de toutes les informations qu'on a reçues. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a le site web mumtl.org. Merci à vous et bonne soirée. Au plaisir de vous réécouter.
Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
On part en musique justement avec une chanson de Laza qui chante « Elle désire tout, elle désire tout ». Je ne sais pas si je le dis comme il faut.
He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar.
Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste.
He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto. desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ay. Ahora sí, he venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
Restez à l'écoute de Regards Croisés, on se retrouve tout de suite avec Simon Paquin.
Vous écoutez Regards Croisés.
Alors avant de rejoindre Simon Paquin qui est président et fondateur d'Ecomaris pour parler du nouveau projet La Maison Océanique de Montréal, un petit moment musical avec Patrice Michaud qui nous chante le Goéland.
Au milieu des grandeurs, cherche pas la gloire, pas plus que les grands dénouements. Je me lave au marais, je ne désire que le vin. Toujours plus au large, je mène ma vie d'oiseau, par beau temps ou dans l'orage. Un point au-dessus de l'eau, perdre la tête et disparaître au milieu des grandeurs, une maison aussi vaste n'a pas besoin d'ailleurs. Au milieu des
Bonjour Simon Paquin.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Simon Paquin.
Vous êtes déjà présenté, président, fondateur d'Écomaris, et bravo pour le projet La Maison Océanique de Montréal qui a été reconnu par l'ONU.
Merci beaucoup.
Un très très beau projet, super intéressant.
Ben oui, on espère. C'est le but d'intéresser les gens, de rapprocher Montréal des océans, rapprocher les Montréalais, les touristes qui viennent visiter aussi, les écoles. Du plancton, qui est à la base de la chaîne alimentaire dans le Saint-Laurent, qui produit l'oxygène du Saint-Laurent. Donc, il y a plein de choses intéressantes à découvrir à travers le plancton. Donc, on espère effectivement que ça va être intéressant.
Alors, vous avez fait une déclaration, puis moi, il y a une phrase, enfin, ou deux qui m'ont sauté à l'oreille, si je puis dire. C'est « Vivre le Saint-Laurent dans toutes ses déclinaisons nous permet de comprendre de quelle façon nous pouvons contribuer à la santé des océans, qui est le plus grand régulateur du climat ».
Ouais.
Ça vient me chercher, puis je suis pas la seule.
Ben, tant mieux, parce que c'est le but, c'est d'aller chercher les gens de... Tu sais, on est très loin. En même temps, on a un fleuve, un golfe. Le Saint-Laurent, c'est majestueux.
Oui.
Et on habite aux abords du fleuve. Et malgré ça, on n'est pas trop conscient, on n'est pas trop... on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Pour des gens au Manitoba ou en Abitibi, ça peut paraître très éloigné, mais en fait... Montréal est connecté, comme toutes les villes riveraines, sont connectées directement aux océans, parce que la seule distance sur l'échelle planétaire, la distance entre Montréal et le Golfe, c'est rien. Donc, on est au même titre que Brest ou que Sydney en Australie, oui, en lien directement avec les océans. Donc, les actions qu'on a maintenant sur les océans ont une action directe sur l'ensemble de la planète. C'est comprendre comment tout est interlié et puis de quelle façon on peut en prendre conscience, comment on peut changer des choses, mais ne serait-ce que de... On est très, très loin des actions, je dirais même. On est vraiment dans une phase de prise de conscience de la position géographique qu'occupe le Québec, notre relation à la mer. Donc, le travail est, selon moi, colossal, donc d'où la nécessité absolue d'avoir une maison océanique à Montréal.
Ah ben oui, c'est important. Est-ce que le début de la construction est toujours prévu pour le mois prochain, enfin 2021?
Oui, ben c'est prévu pour le printemps 2021.
Pour le printemps?
Printemps 2021. En fait, ça fait longtemps, ça fait un an et demi qu'on travaille sur le projet. Ça peut sembler loin, mais dans un contexte de pandémie,
ah oui,
je vous dirais que c'est très rapproché. Donc, le projet a été décalé, a été bougé beaucoup. Mais là, on arrive à quelque chose de quand même très fini. Puis ça tombe quand même bien, d'une certaine façon. Mais premièrement, ça fait une bonne nouvelle à annoncer dans les mois qui vont venir.
Oui.
Ça va. On veut partir vraiment une relance verte, donc qui participe aussi à la prise de conscience des gens que peut-être sur les priorités, on peut regarder ça différemment, et de vraiment sentir qu'on fait partie d'une planète. On n'est pas juste une ville, on n'est pas juste une province, on n'est pas juste une région, on est vraiment lié au reste de la planète. Puis pour un pays qui se dit d'un océan à l'autre, je trouve que la place de l'océan dans la conscience collective, si on veut, est quand même limitée. Et donc, mais l'océan, il faut comprendre que c'est vital autant pour la personne qui habite à Winnipeg qu'au Yukon qu'à Rimouski. Donc,
oui,
l'oxygène vient des océans. La santé, la nourriture vient des océans, le transport se fait par les océans. L'océan vient réguler le climat. Si il n'y a pas de régulateur de climat, ben la température continue de monter. Donc, c'est vraiment important. Puis on vise pas seulement les jeunes enfants à la maison océanique, on vise vraiment les touristes aussi qui un jour vont revenir à Montréal, mais on vise la population en général aussi, à vraiment positionner Montréal comme une ville océanique. C'est vraiment ça l'idée.
Ah oui, mais ça va être super important. Revenons un petit peu en arrière. Ça fait un projet d'Écomaris. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'est la mission d'Écomaris?
Donc, Écomaris, à la base, c'est un voilier école qui se sert de la navigation comme d'un moyen d'apprentissage. Apprentissage autant humain, donc parce que sur un navire, on travaille ensemble, on collabore, on apprend à communiquer, on apprend à développer sa motivation, ses intérêts, à travailler en équipe. Donc, on développe autant l'humain que les connaissances environnementales. Parce qu'on part de la prémisse qu'on va protéger ce qu'on aime, puis on aime ce qu'on connaît. Le fleuve, si on le connaît pas, on n'a pas trop d'intérêt, on s'en fout un peu de ce qui s'y passe, ça nous va nous passer du pied par-dessus la tête. Alors que si tu as déjà navigué, tu as déjà lu une table de marée, tu as déjà vu où est-ce que tu pouvais aller t'échouer, où est-ce que tu as déjà vu des cailloux, des belugas, tu as vu une plage où tu es allé ramasser de la livèche. Donc, il y a comme un lien qui se crée. Donc, moi, je crois beaucoup au lien entre les personnes, mais là, c'est aussi vrai pour l'environnement. Le lien que tu as avec l'environnement va faire que tu vas avoir un intérêt, vouloir le protéger, vouloir poser des actions, puis comprendre, puis peut-être faire des choix différents aussi, qu'on va arriver à faire des choix économiques. Des fois, ça ne va pas du tout à l'encontre de l'environnement. Au contraire, il y a une économie qui peut être basée sur l'environnement. Donc, c'est peut-être d'essayer de mettre l'épaule à la roue à un changement de paradigme. Et le fait que l'ONU a déclaré la décennie 2021 à 2030 comme décennie des océans pour le développement durable, c'est très significatif. Et nous voulions avoir une initiative québécoise, montréalaise, canadienne qui vienne. On n'a pas de prétention, on ne va pas changer le monde, mais on veut mettre l'épaule à la roue d'un mouvement mondial pour mettre les océans au centre des conversations, des priorités politiques à tous les niveaux à travers le monde. Donc, nous, on veut contribuer de cette façon-là en rapprochant Montréal des océans.
Mais c'est vraiment une superbe idée extraordinaire que j'ai beaucoup aimée. Avant qu'on fasse une petite pause, je voulais simplement dire que j'avais regardé aussi une vidéo où vous parliez des... J'avais beaucoup aimé aussi votre façon de parler des jeunes en disant que souvent, en tant que parent, on peut des fois le faire, en le faisant exprès ou sans le faire exprès, influencer notre enfant pour tel ou tel métier. Alors que lui laisser revivre ses envies, ses désirs et accepter que ça puisse paraître peut-être fou à un parent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, puisque c'était leur envie. Mais on va en reparler tout de suite après la pause.
Bon, ça marche. Je vous attends de l'autre côté.
À tout de suite.
À tout de suite. L'invitation est lancée, le message est clair. On rassemble une armée d'aquatiques mercenaires.
Simon Paquin, toujours là?
Toujours là.
Vous n'êtes pas parti en bateau?
Non, c'est plus le temps. C'est le temps de préparer la maison océanique de Montréal.
Oui, je comprends. Alors, parlons un petit peu de ce que je vous disais juste avant, de cette, oui. cette passion d'avoir envie que les enfants, les jeunes, soient passionnés et des désirs et puissent aller, justement, puissent répondre à ces désirs-là.
Oui, ben, je crois que les enfants doivent nous amener ailleurs comme parents. On n'est pas là pour répéter l'histoire de nos parents, ce qui n'est pas toujours glorieux, en fait. Mais donc, il faut aller explorer, il faut aller voir. Puis, on est un individu, donc on a en principe des rêves qui nous sont propres et des envies et des désirs qu'on réprime un peu trop souvent. Et ben nous, en fait, en invitant les gens à venir naviguer, les jeunes à naviguer, on leur ouvre les horizons, carrément, au sens propre et figuré. Et on découvre des nouveaux intérêts, des nouvelles motivations, des nouvelles choses, des nouveaux sujets dont ils ne soupçonnaient peut-être même pas l'existence. Et en tant qu'adulte, on devient des adultes significatifs. Les gens n'ont pas toujours la chance d'être entourés de... Bon, je ne veux pas dire qu'on est inspirant, mais on est différent. Donc, on amène une autre vision, peut-être, de la vie,
oui,
de la navigation, des permis.
Oui, ça peut ouvrir sur des visions qu'ils n'auraient pas eues en restant à terre, j'ai envie de dire.
Oui, exactement. Et le choc un peu entre jeunes aussi, de voir les jeunes qui viennent de partout à travers le Québec, qui ont des histoires différentes. Puis tout ça dans un mouvement. Moi, ce que je crois, c'est que le mouvement physique en bateau vient aider le mouvement psychique, si on veut. Il vient vraiment ouvrir sur d'autres choses. Puis de se donner le temps. En mer, on a du temps, on se donne le temps de prendre le temps. Et pour pouvoir décanter un peu notre vie, de pouvoir la regarder passer à 100 000 à l'heure, ralentir un peu le train, voir, se positionner, dire, un peu, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Nous, on dit, faites n'importe quoi, mais faites quelque chose. C'est pas vrai que, tu sais, des fois, il y a des vieux qui vont critiquer les jeunes, disant, ah, les jeunes, non, ils font rien aujourd'hui. Nous, dans notre temps, on n'était pas comme ça. Je crois pas du tout à ça.
Oui,
les jeunes, maintenant, ont peut-être pas eu la chance d'être en contact avec des choses stimulantes, mais oui. lorsqu'ils le sont, ils embarquent, ils aiment la vie. Il y a comme un appel naturel pour la vie.
Ils réagissent, quoi.
Ils réagissent, mais plus que réagir, ils embarquent. Ils embarquent dans le mouvement. Nous, des fois, on fait souffrir les jeunes, carrément. On les fait travailler dur, on les fait travailler dans des mauvaises conditions, mais on le fait toujours dans la bonne humeur, puis dans l'effort, puis qu'ils sachent, ils prennent conscience qu'ils travaillent pour quelque chose de plus grand qu'eux. C'est pas vrai que les gens sont égoïstes. On a tous un besoin de partager. Je pense qu'on le voit aussi dans la situation actuelle. On a besoin du contact avec les autres. On a besoin de s'ouvrir. On a envie de travailler avec les autres, pas isolé dans son coin à regarder des jeux vidéo. Ça, j'y crois pas. Donc, moi, j'ai vu plein de jeunes s'ouvrir comme des fleurs devant une expérience qui leur est offerte, leur permet de voir autre chose que ce qu'ils avaient pu imaginer. Ça donne de la motivation, ça remplit d'énergie, ça donne de l'espoir. Donc, espoir, on a toujours besoin, encore plus en ce moment. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. La voile, le large, l'espace, la navigation, les rencontres avec les gens, ça donne de l'espoir.
Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ça. Fulgence avait une question pour vous.
Oui, oui. Et Simon Paquin?
Oui.
Oui, bonjour d'abord. Et puis, bon, j'aimerais bien savoir d'où vient votre amour pour le bateau à voile, cette école, ce bateau école, et puis bon, pour la navigation ou bien pour les océans, ça vient de votre famille ou bien c'est un
truc que vous... Non, pas du tout, j'avais pas du tout de ma famille. En fait, moi, j'ai découvert la mer quand même assez tardivement. J'ai travaillé comme professeur de plongée sous-marine en Martinique pendant 2 ans, et c'est vraiment là que j'ai découvert, j'ai commencé par le fond des océans, si on veut. J'ai découvert la voile comme ça, au club de plongée où j'étais, puis je me suis rendu compte que, finalement, au Québec, on avait la même richesse, sinon encore plus grande et plus diversifiée. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi on la met pas en valeur, notre mer? Parce que le Saint-Laurent, c'est une mer intérieure. Mais oui, c'est la force, je pense, c'est l'ensemble, l'encyclopédie, l'ensemble de choses qu'on va connaître pour naviguer, que ça touche la géographie, la chimie, la physique, les relations humaines, l'astronomie, ça rejoint un paquet de sujets. Et puis, donc, c'est comme une espèce de source intarissable. Puis moi, comme je suis quelqu'un de curieux de nature, je me suis dit, waouh, c'est mon encyclopédie vivante, je l'ai, elle est là, puis ça va m'entretenir jusqu'à la fin de mes jours. Donc, c'était comme un sujet sans fin. C'est comme un sujet de recherche interminable.
C'est beau.
Alors, en revenant maintenant à la Maison Océanique de Montréal, il y a aussi le fait que quand ça va, cette infrastructure va exister, quoi qu'elle va être là, oui. Ça va aussi redonner comme du peps au quartier du Vieux-Montréal.
Ben oui, c'est exactement le but, c'est de venir bonifier, tu sais, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec le Port de Montréal, donc qui investit de l'argent aussi là-dedans, qui veulent, tu sais, vraiment bonifier l'offre, que ce soit plus juste du tourisme de consommation, si on veut, mais vraiment un tourisme d'éducation qui a allié autant les arts, les sciences, la conscience environnementale. Donc, c'est un tourisme bonifié, si on veut, bon, moi j'aime ça l'appeler de tourisme intelligent, parce que le tourisme peut être quand même néfaste, mais il y a un tourisme qui peut être fait d'une bonne façon, donc qui peut contribuer vraiment à ouvrir les consciences. Puis justement, les gens naviguent, qui arrivent sur des bateaux de croisière, arrivent sur le Saint-Laurent, mais je suis pas mal certain que sur les bateaux, ils passent pas leur temps à lire un livre sur le plancton ou à comprendre oui. C'est quoi la biodiversité du Saint-Laurent. Donc, en arrivant sur le quai, ils peuvent, s'ils le veulent, venir prendre une bière au plancton, une crème glacée au plancton, parce qu'il va y avoir un resto dans
oui,
la maison.
Oui, j'ai vu ça.
donc, de pouvoir goûter les produits du Saint-Laurent, c'est pour ça qu'on dit avec différents axes, c'est qu'il va y avoir l'axe culinaire, l'axe formation, l'axe scientifique, l'axe artistique. Donc, diverses façons d'intéresser les différents visiteurs pour animer ces consciences-là, puis arriver à ce que les océans deviennent au cœur de nos préoccupations, puis que les gens... Puis j'espère partager mon amour des océans, puis ma passion pour le plancton, qui est un peu devenu un peu une folie obsessive, mais quand même, je pense que c'est quelque chose de... Le plancton, la plupart des gens ont lu ça dans un livre d'écologie en secondaire 1, puis après ça, ils n'ont aucune idée de ce que ça fait. Mais en fait, le plancton, c'est un monde. Quand on rentre là-dedans,
mais
c'est
oui.
Un monde fascinant. Là. Quand tu vois du plancton vivant que tu as cueilli toi-même dans le fleuve, il y a quelque chose de complètement surréel. Donc, on entre dans un autre monde. C'est comme si on rentrait dans une autre galaxie. Donc, on espère intéresser les gens de différentes façons.
Mais c'est sûr. Ça va être passionnant. Et mais en plus, leur donner aussi peut-être à certains une conscience, comprendre que quand on veut jeter quelque chose, enfin, je pense au plastique ou autre chose comme ça, oui. c'est très important de faire attention, quoi qu'il y a toute une vie. Une oui. vie à laquelle on doit le respect.
Oui, aussi. Effectivement. Puis il y a effectivement, après ça, des comportements qui vont pouvoir changer. Mais les comportements vont se faire de façon individuelle, oui, mais de façon collective, surtout. Il y a des décisions collectives à prendre, des choix qui sont des fois politiques aussi, des choix économiques.
Il y a ça aussi, oui.
Donc, de contribuer à cette réflexion-là, puis de pouvoir avoir une opinion, parce qu'en ce moment, qu'on tourne à droite ou à gauche, qu'on prenne une décision ou une autre, en lien avec le Saint-Laurent, la plupart des gens sont pas tellement concernés, ils n'ont pas tellement d'opinion, ils ne seront pas contre ou pas, ils vont savoir, je ne sais pas trop, je ne sais pas pourquoi oui, pourquoi non. On peut avoir des écologistes qui peuvent sembler ou qualifier d'enragés d'un côté et les autres, les capitalistes finis qui exploitent les ressources. Il y a peut-être quelque chose entre les deux, tu sais, c'est pas nécessairement tout blanc, tout noir, c'est pas tout mal. Le Saint-Laurent, c'est une ressource. Est-ce qu'on peut l'utiliser intelligemment? Mais pour moi, ça commence par l'éducation, par la compréhension qu'on peut en avoir, puis de ce qu'on peut en faire, puis de comment on peut mobiliser. Tu sais, on cherche souvent des projets fédérateurs dans une société. On dit, on n'a pas de projet de société. Ben, je sais pas. Le Saint-Laurent, pourquoi ça ne pourrait pas être un projet de société québécoise? Quand, tu sais, je sais qu'aux Bermudes, il y a un voilier qui s'appelle le Spirit of Bermuda, puis chaque élève en 10e ou 11e année, je crois, doit passer un certain séjour sur le bateau pour découvrir son monde, découvrir son environnement. Comment ça se fait qu'on est déconnecté à ce point-là de l'environnement immédiat? C'est, je ne sais pas pourquoi on s'est désintéressé de ce qui se passe dans notre propre cours, mais je vous assure que si on y retourne, on va voir que c'est très intéressant et ça peut vraiment affecter nos vies de façon positive assez facilement, en fait. T'sais, je pense qu'on est dans un champ, on est dans un tournant. Il y a quelque chose à faire ici.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
J'espère que la Maison Océanique de Montréal va servir à ça.
Simon, j'ai tellement hâte que cette Maison Océanique soit faite. On arrive au bout de l'entrevue. Merci beaucoup d'avoir été aussi passionné, passionnant. Et puis j'ai hâte d'y rentrer, d'y mettre le pied dedans et d'apprendre. Voilà.
Vous allez voir, ça va être extraordinaire.
Merci Simon, merci beaucoup.
Merci à vous deux.
Merci et bonne continuation pour tout, parce que la Maison Océanique, c'est quand même un sacré projet. Juste un tout petit bout avant qu'on se quitte, il y en a pour combien de temps à la construire?
Ah, c'est à peu près 8 mois de construction, plus après ça, il va y avoir techno, on ne peut pas y échapper aujourd'hui. Donc, toute la partie intégration des technologies, il va prendre un autre 3 mois à peu près.
D'accord. Donc, voilà. 2022. Rendez-vous en 2022.
Exactement. On s'en vient. Attendez-nous.
Au revoir, Simon.
Bye-bye. Bonne soirée.
On part en musique.
The tall girl and the 80s sitting by the glowing fire that is telling his stories. Snow is falling, but she is warm. Those Christmas nights, she would come home. Those Christmas nights, she would come home. Little girl in the 90s, snow.
Christmas Night, chanté par Géraldine Saussier. C'était comme une avance au Noël qui arrive. Et Géraldine Saussier, une jeune chanteuse très talentueuse qu'on avait eu le plaisir de recevoir ici l'année dernière. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. C'était extrêmement intéressant.
C'est fini, oui. On va dire merci à nos invités.
Bien sûr.
Oui, en commençant par Elisabeth Andol, qui est cofondatrice et directrice générale artistique de l'organisme MUL, les Grandes Murailles dans Montréal.
Oui.
Allez-y, mumtl.org.
Voilà. Et aussi à Simon Paquin, qui est des Comoris, c'est pour le projet La Maison Océanique de Montréal, qui sera bientôt sur pied. Donc, courez-y dès que ce sera fait en 2022.
OK, dans un an.
Voilà. Disons, voilà. Bah oui, mais c'est un début. C'est toujours très intéressant d'avoir des invités qui sont passionnés et passionnants et qui nous donnent le goût de suivre tout ce qui se fait de cette manière-là. Voilà.
Bah, ils sont tous intéressants, nos invités. Non, voilà, passionnants et passionnés. Voilà.
Si tu veux, j'ai le droit d'avoir des préférences, Fulgence.
Oh oui.
Bon, merci beaucoup.
S'ils ne sont pas intéressants, on les invite pas.
Aujourd'hui, c'était une belle émission aussi.
Oh, ouais, donc, c'est vrai, deux sujets complètement. Ouais.
Merci à toutes et tous.
Merci
et puis,
à Maurice.
Merci à Maurice Bolduc pour ses musiques.
Merci à vous tous qui nous suivez.
Et puis on va bien sûr se retrouver. Alors quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mercredi. On va se retrouver demain.
C'est le milieu de
donc
la semaine.
Demain, soyez présents de 17h à 18h et puis, retrouvez-nous avec Fulgence à Regard Croisé.
Oui.
Bye bye à tous.
Allez, bonne soirée Arlette.
Toi aussi Fulgence, ouais, bonne soirée.
Salut. Ouais.